Allez suivre est une rediffusion.
Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.
Priorité Santé, pour nous les femmes.
Notre santé d'abord.
C'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou.
Priorité Santé, question de femmes.
Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. À l'expression 9 mois, on associe presque automatiquement les mots grossesse ou bébé. Pourtant, plus d'une naissance sur 10 intervient avant le terme de la grossesse, fixé à 41 semaines d'aménorrhée. Et d'après l'OMS, parmi les 10 pays qui comptent le plus important taux de naissance prématurée, eh bien, 8 se situent en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons donc parler des moyens et des soins pour prévenir cette prématurité, parler de l'état général des futures mères, conditions de vie, conditions de santé, de fatigue, antécédents pour essayer d'en comprendre les causes, décrire les risques encourus pour le bébé prématuré, les conséquences notamment pour sa respiration, son système digestif et bien sûr, répondre à vos interrogations. Comme toutes les semaines dans notre émission Questions de femmes, quels problèmes de santé chez la maman implique un suivi renforcé au cours de la grossesse? Quels soins et quels examens pour les futures mères présentant un risque d'accoucher avant terme? Quelle prise en charge pour un bébé prématuré? Questions, témoignages sur vos parcours personnels. Est-ce que certains doutes subsistent après une expérience compliquée? Quelles sont les voies que vous avez empruntées pour surmonter une épreuve? Nous vous donnons la parole et un spécialiste est avec nous pour vous répondre. Docteur Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar. Docteur Diop, on vous retrouve dans les studios en Mandincan et full D de RFI, dont nous remercions toute l'équipe pour son accueil.
Notre santé, si on en parlait.
Docteur Diop, la prématurité, ses causes, les risques associés. Aujourd'hui, on va bien sûr insister sur la prévention, comment l'éviter lorsque c'est possible. Et peut-être, pour commencer, une petite définition, parce qu'il existe différents stades de la prématurité.
Exactement, Caroline. L'accouchement prématuré, c'est lorsque l'accouchement survient à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Entre 22 semaines d'aménorrhée et 36 semaines d'aménorrhée, on parlera d'accouchement prématuré. Et tant que le chiffre 22 est faible, plus le chiffre est faible, plus la prématurité est grande. Donc 22 semaines d'aménorrhée, 23, c'est beaucoup plus dangereux qu'un accouchement qui survient vers 34-36 semaines. Et on aura les gros prématurés ainsi que les petits prématurés.
Alors quand on parle de prématurité, vous avez déjà parlé de grand ou petit bébé. Qu'est-ce que c'est le critère essentiel sur le plan des risques? Est-ce que c'est le poids du nouveau-né ou le terme de l'accouchement, c'est-à-dire en fait le temps pendant lequel il a pu rester bien au chaud dans le ventre de sa maman?
Effectivement, c'est des critères-là. Il y a le poids du bébé. Nous considérons que le poids minimum qu'un bébé peut avoir, indépendamment du stade du sterme de la grossesse, c'est à peu près 2,5 kg. Et donc, un bébé aux alentours de 36 semaines d'aménorrhée pèse à peu près 2,5 kg. Donc, il est censé sortir de la prématurité. Mais il y a aussi ce critère de cet âge gestationnel. Parce que la maturité des organes internes au niveau du bébé survient vers la 34e, 36e semaine d'aménorrhée, principalement le poumon, et on verra pourquoi. Et si plus le bébé survient tôt, plus l'accouchement survient tôt, plus il y a une immaturité des organes au niveau du bébé, et ce qui va poser beaucoup de problèmes pour la prise en charge et l'adaptation à la vie extra-utérine.
Docteur Abdoulaye Diop, on parle de prématurité spontanée, prématurité induite, ça c'est un petit peu théorie, mais c'est bien pour comprendre c'est quoi la différence entre les deux.
La prématurité induite, c'est une prématurité qui survient lorsque les conditions de la grossesse ne sont plus garanties pour le bébé et qu'on provoque l'accouchement prématuré pour justement éviter qu'il y ait une mort fœtale in utero ou une complication chez le bébé. Alors que la prématurité qui survient spontanément, c'est une prématurité qui vient en cause d'une pathologie sous-jacente à la grossesse et dont le travail se déclenche de manière spontanée.
C'est plus accidentel, on va dire.
Exactement.
Alors, on va évoquer les causes de ces accouchements avant terme, si vous le voulez bien, docteur Diop. Quand c'est possible, éviter ces situations, ça veut dire qu'il peut vraiment y avoir des mesures de prévention?
Oui, dès le début de la grossesse, avec le médecin traitant, le gynécologue ou la sage-femme, on peut faire un état des lieux de la situation de la patiente, que ce soit sa situation personnelle médicale, que ce soit son environnement dans lequel elle évolue, elle travaille, elle vit. Et on peut avoir un score qui nous permet de savoir quel est le risque de faire un accouchement prématuré. Pour une patiente qui s'adonne aux travaux champêtres, horaire, qui a une durée de trajet entre son lieu de travail et son domicile très long, qui fait beaucoup de changements, beaucoup de moyens de transport, etc. Ces patientes ont un risque de développer ou de faire un accouchement prématuré plutôt qu'une patiente qui a un certain confort, entre guillemets, de vie. On peut aussi avoir, dès le début de la grossesse, des pathologies telles qu'une béance cervicale ou bien une incompétence du col qui était connue, avec des antécédents peut-être d'accouchement prématuré lors des grossesses précédentes, qui font qu'il y a des précautions à prendre pour éviter que, justement, cet accouchement prématuré ne récidive. Et enfin, toute pathologie inculquant dans la grossesse pouvant entraîner une fièvre peut automatiquement déclencher le travail à n'importe quel terme de la grossesse et donc déclencher un accouchement prématuré, le cas échéant.
Ça veut dire qu'on fait particulièrement, par exemple, attention aux fièvres liées au paludisme.
Exactement. Le paludisme est une des premières causes, en tout cas en Afrique, de survenue de l'accouchement prématuré.
Une autre cause à laquelle on ne pense pas forcément, c'est le manque d'informations, ne pas avoir toutes les connaissances liées à la santé maternelle. Et puis, les inégalités, les violations des droits des femmes peuvent aussi augmenter ce risque pour la santé de l'enfant et la santé de la maman.
Exactement. L'accouchement prématuré ne survient pas de manière automatique. Avant cet accouchement prématuré, il y a toujours une phase qu'on appelle la phase de menace d'accouchement prématuré. Et si on connaît les signes de cette menace, et si on y prend garde et on prend les précautions idoines, cet accouchement prématuré peut être jugulé et éviter justement qu'il ne survienne. Cependant, si on n'y prend pas garde et que cette menace d'accouchement prématuré, qui au début est une menace légère, puis moyenne avant de devenir sévère, arrivé au stade d'accouchement prématuré inéluctable, il n'y a malheureusement plus rien à faire.
Alors, quand on le peut, le bébé qui naît trop petit ou trop tôt est conduit dans un service spécialisé, réanimation, néonatologie, docteur Diop, question très simple, une couveuse, à quoi ça sert ?
Une couveuse, c'est un instrument médical qui permet de reproduire un peu les conditions dans lesquelles le bébé était à l'intérieur du ventre de sa mère, le temps qu'il puisse atteindre une certaine maturité au niveau de ses organes. Les organes internes du bébé ne sont pas adaptés à une vie extra-utérine lorsque l'accouchement survient avant 36 semaines, et donc il y a un problème de thermorégulation, un problème de gestion de la glycémie, et même un problème de gestion de la respiration, les enfants pouvant faire ce qu'on appelle des pauses respiratoires. Et donc cette couveuse, c'est un appareil qui permet de maintenir une certaine température chez le bébé, reproduire un peu les conditions de la vie intra-utérine, le temps qu'il y ait une petite maturation ou bien le temps qu'il y ait un petit développement médical, entre guillemets, qui permet à l'enfant de se faire une meilleure adaptation à la vie extra-utérine.
Alors la santé respiratoire, c'est ce qui intéresse Thérèse, auditrice du Mali de Cathy. Elle nous a envoyé ce message sur Facebook. Elle écrit que dans son entourage, plusieurs personnes ont accouché prématurément. Les enfants souffrent de problèmes respiratoires. Docteur Diop, Thérèse demande si les maladies liées à la prématurité sont curables.
Oui et non. En fait, l'explication, c'est que le poumon du bébé est l'un des derniers organes à être mature dans son développement intra-utérin. La maturation pulmonaire survient à peu près vers la 34e semaine. Et donc, lorsque l'enfant est avant 34 semaines, ses poumons ne sont pas encore aptes à avoir une respiration aérienne en dehors de l'utérus de sa maman. Et donc, les enfants qui sont nés prématurés souffrent pratiquement tous de ce qu'on appelle soit la maladie des membranes hyalines, et ils sont plus susceptibles de développer soit un asthme plus tard ou plein de complications respiratoires. La plupart de ces complications peuvent être prises en charge, mais parfois il est très difficile parce qu'il leur manque un produit spécial qu'on appelle du surfactant pour permettre aux alvéoles de s'ouvrir et de laisser passer l'air dans les poumons. Et parfois on a du mal à avoir un produit pour faire la fabrication de ce surfactant chez les enfants.
On voit bien qu'il y a une sorte de rattrapage chez les bébés nés tout petits en termes de poids, en termes de croissance. Est-ce qu'on va être fixé à partir d'un certain âge ? Par exemple, je pense à 5 ans, on saura si finalement il y a oui ou non séquelles de la prématurité ou c'est impossible ?
Tout dépend de la cause de la prématurité, tout dépend de la prise en charge qui a été mise en place dès le début de la naissance. Donc nous avons, n'oublions pas, ces minutes précises dont on parle où l'oxygène est indispensable au développement du cerveau de l'enfant. Et donc si l'accouchement prématuré a pu être bien géré avec la présence d'un pédiatre, avec la présence d'une réanimation néonatale et un accès à l'oxygène suffisant pour le bébé, non seulement pour son oxygène, la plupart du temps l'enfant peut ne pas avoir de séquelles à court et à moyen ou long terme. Malheureusement, si toutes les conditions de prise en charge de cet enfant-là à l'extérieur, notamment avec l'absence de couveuse ou parfois même la réalisation des méthodes kangourou pour pallier un peu. Parfois, il peut avoir des séquelles qui peuvent poursuivre l'enfant toute sa vie.
Docteur Diop, c'est le moment de retrouver notre palabre au féminin. Et comme chaque semaine, Charlie Dupuis a ouvert son micro à un groupe de femmes. Aujourd'hui, nous retrouvons ce groupe de parole de femmes à Évry, en région parisienne, animé par Fatoumata, 40 ans, avec Ria, 28 ans, Aïssa, 32 ans, et Bintou, elle a 24 ans.
Alors bonjour, je m'appelle Bintou et je vais vous parler de ma sœur qui a vécu un accouchement prématuré. Je crois qu'elle a accouché à 6 mois. Et du coup, quand elle a accouché, son fils il était en couveuse. Et comme il était très petit et très maigre, il a tenu que 2 jours. Il est décédé.
Donc ça, c'était le bébé de votre sœur?
Oui. Elle avait des problèmes de santé, la préeclampsie.
En fait, c'est pas vraiment un problème de santé qui reste constamment. En fait, la préeclampsie, c'est une maladie de grossesse. Moi, je connais le sujet parce que je l'ai vécu 2 fois. Moi, j'ai eu ma première qui a 9 ans aujourd'hui, qui est née à 34 semaines. Après, moi, c'était pas des grandes prématurées. Elle est née à 7 mois et demi, pour vous situer. Moi, généralement, dans mon cas, ça survient en début de 3e trimestre. On va dire les symptômes, en fait, c'est de la tension. Je commençais à avoir de la tension élevée, j'avais 19 de tension. J'ai des œdèmes aussi, le rythme cardiaque du bébé qui s'accélère.
Et c'est ce qui s'est passé pour vous, donc pour vos 2 enfants, vous avez dû être déclenchée?
Oui, moi, je n'ai pas pu être déclenchée. Dans un premier temps, en fait, parce que pour la première, ça a été un cas, on va dire, d'extrême urgence. C'est-à-dire qu'en fait, je suis rentrée à l'hôpital, je ne me sentais pas très bien. Et en prenant ma tension, ils ont vu que j'avais 19 de tension. Donc, ils m'ont dit, écoutez, on va essayer de vous garder et le plus longtemps possible pour que le bébé grandisse, en fait, parce qu'il est meilleur au chaud, comme on dit, dans le ventre de sa maman. Et du coup, ils ont dû m'opérer d'urgence et c'est pour ça que j'ai eu une césarienne.
Et comment t'as fait pour tenir parce que le fait que tu as accouché des enfants prématurés, comment t'as fait pour tenir pour déjà t'es déjà fatiguée pour l'accouchement, etc. T'as déjà tu vois t'as ta rééducation à faire, mais comment t'as réussi à faire entre les allers-retours à l'hôpital et ta rééducation?
Moi ça a pas été facile parce que en fait déjà j'allaitais. Donc, je devais fréquemment faire des allers-retours, des allées et venues entre l'hôpital et la maison. Et en plus de ça, j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu 2 césariennes en plus. D'un côté, si, j'ai eu un peu de chance parce qu'elle n'est pas restée très longtemps, on va dire. Elle est restée 3 semaines, la première. Mais la deuxième, ça a été plus difficile, que ça soit psychologiquement, moralement et physiquement même, parce que mon corps, il suivait plus, en fait.
C'est fatigué.
Il y a des moments, je vais pas vous mentir, on craque aussi, hein. En fait, pour moi, d'accoucher un bébé prématuré, pour moi, ce n'est pas la normalité, en fait. En fait, votre enfant, il naît, on vous le retire. Par exemple, celles qui ont la chance d'accoucher normalement, ou si bébé va bien, le bébé, vous l'avez près de vous. Mais moi, j'ai jamais eu cette chance-là, en fait. C'est-à-dire que le bébé, en fait, on vous le retire tout de suite, on vous laisse le voir à peine 5 secondes. En plus de ça, il est dans une couveuse, donc durant plusieurs mois, vous avez un bébé dans votre ventre, vous le sentez bouger, vous le sentez en vous, et vous préparez aussi sa venue, en fait, de ce bébé. Et en fait, au moment de l'accouchement, en fait, pour moi, un enfant prématuré, c'est un déchirement.
Ouais, ça fait peur quand même. Parce que moi, pour mon fils, déjà, il n'était pas prématuré. J'ai accouché à 41 semaines, mais il était très petit. Et lui, comme il faisait 2 kg 320, il était assez petit. Il n'était pas...
Il n'avait pas le poids qu'il fallait.
Exactement.
Non, mais je la rejoins dans ce qu'elle dit, parce que moi, ayant des enfants de moins de 2 kg, on est fixé sur le poids seulement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils atteignent un poids chaque jour pour qu'on puisse justement le plus rapidement sortir et qu'on puisse avoir un bébé en bonne santé, quoi.
Est-ce qu'il va vivre? Ça aussi, c'est traumatisant parce que c'est vrai qu'il y en a plein, ils accouchent prématurés, mais ils se demandent est-ce que mon enfant il va vivre parce qu'il est petit.
Est-ce que vous, c'est une question que vous vous êtes posée en étant enceinte? Est-ce que c'est un stress, par exemple, la prématurité?
Moi, j'ai toujours fait en sorte d'accoucher des gros bébés. C'était un objectif pour moi. Voilà. J'ai toujours fait un objectif de faire des bébés au moins qui dépassent les 3 kilos. Je mange beaucoup. Je mange beaucoup, mais je m'alimente pour que l'enfant puisse avoir le nécessaire pour qu'il puisse avoir un poids assez... Moi, mon objectif, c'est 3 kilos.
Et vous avez eu des prématurés?
Je n'ai pas eu, mais j'ai eu des personnes et des copines qui ont eu des bébés prématurés. Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu, mais je me mets un pas à leur place. J'essaie de ressentir si ça m'arrivait, je ne pourrais pas supporter.
Mais je pense que c'est ce que tu dis parce que tu ne l'as pas vécu. On est obligé de se battre, en fait, pour cet enfant, justement. C'est comme un exemple, je vous dis, il y en a qui ont accouché par voie basse, qui vont vous dire, mais moi, j'ai rien ressenti, tout s'est bien passé, j'ai eu la péridurale, voilà, j'ai pas eu mal. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, non, mais moi, ça a été un cauchemar. Donc, en fait, c'est un peu le même principe pour moi, la prématurité, c'est qu'on s'y attend pas.
Reportage de Charlie Dupiot que vous avez suivi avec attention, docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien à Dakar. Votre réaction, ce qu'on entend déjà, c'est la souffrance, la douleur de certaines mères, la peur de perdre le bébé et puis cette séparation, c'est difficile quand on est très attaché.
Oui, surtout que la plupart du temps, on n'est vraiment pas préparé à ça. Et 99% des femmes qui ont un accouchement prématuré n'étaient vraiment pas préparées à ça. Donc cette brutalité de l'accouchement, qu'on avait peut-être une idée ou une conception de comment allait se passer son accouchement, recevoir son bébé dans ses bras, etc. Et qu'on est mis devant une réalité de recevoir son bébé bien avant terme. Un bébé que vous allez voir juste 5 minutes, on le disait tout à l'heure, ensuite on va pouvoir voir son bébé à travers une vitre, un appareil qui est censé le maintenir en vie. Cette brutalité, le risque de perdre son bébé, c'est sans compter la pathologie sous-jacente qui a déclenché l'accouchement prématuré, c'est quand même une épreuve psychologique assez difficile pour les patientes.
On entend une maman dire, moi mon objectif c'était un bébé de 3 kilos. Peut-être qu'on a envie de lui dire, objectif ou pas, c'est pas forcément l'alimentation, ce qu'on va manger qui va déterminer le poids de ce bébé.
Malheureusement, non. Il y a tellement de facteurs qui peuvent survenir, interférer et déclencher l'accouchement prématuré. Même un bébé, gros bébé aussi, ça poserait peut-être d'autres problèmes. L'hyperchondrie, on sait que dans certaines situations, tel qu'un diabète gestationnel, avoir un trop gros bébé peut aussi poser énormément de problèmes.
Docteur Abdoulaye Diop, une première auditrice en ligne de Côte d'Ivoire.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Karine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, Karine, vous êtes la maman d'une petite fille qui a aujourd'hui 1 an et demi, c'est ça ?
C'est bien ça.
Elle se prénomme comment ?
Ilan,
mais juste avant cette deuxième grossesse, vous avez perdu un premier bébé qui était né avant terme.
Oui.
Est-ce qu'il y avait eu des signes, des inquiétudes avant la naissance ?
Pas du tout. J'avais même fait une échographie environ 6 jours avant où tout allait bien. Je devais accoucher normalement dans un peu plus de 7 semaines après la date de ma dernière écho. Et on va dire que, comme j'ai dit, 6 jours, 7 jours après, les choses ne se sont pas bien passées. La petite est née plutôt que prévu.
Il y avait eu des signes d'alerte. Comment est-ce que vous avez ressenti que le travail avait commencé, que ça allait venir ?
En fin de journée, j'ai commencé à sentir des douleurs. Mais je me suis dit que c'était normal, vu que j'étais primipare. Donc, j'essayais de prendre sur moi et puis de vaquer à mes occupations comme si de rien n'était.
Ces douleurs, c'était des contractions ?
Je crois bien que ça devait être des contractions, mais je ne savais pas.
Elle est née dans quel cadre, cette petite ?
Elle est née dans un centre de santé, pas loin de chez mes parents, parce que j'étais allée visiter mes parents. Et c'est là que c'est arrivé. Donc, au fait, je n'ai pas accouché là où je devais accoucher.
D'accord. Donc, cette naissance, on va dire, elle s'est faite un petit peu dans l'urgence. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour sa prise en charge de cette petite fille, on le redit, qui est aujourd'hui décédée. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après sa naissance ?
Voilà. Donc, je sentais comme une trace. J'avais eu un moment une trace de sang dans mes urines. Et là, j'avais ma mère à mes côtés qui m'a dit, bon, là, on va pas tarder. On va y aller. On va voir ce qui se passe. Parce que quand j'allais aux toilettes, alors que l'enfant s'apprêtait à venir, moi, je ne savais pas. Quand j'allais aux toilettes, je sentais comme une masse, comme si j'allais faire mes selles. Et là, ma mère m'a dit, écoute, je suis sûre que le bébé est en train d'arriver. Elle m'a dit, écoute, on ne perd pas le temps, on y va, on verra au moins ce qui se passe là-bas. Donc, j'arrive, on me prend en charge, on m'installe et la sage-femme en question analyse mon dossier. Là, elle m'auscute et là, elle me dit, vous êtes à 8 doigts.
C'est la dilatation du col, ça veut dire que, on va dire, le bébé va arriver, puisqu'en général, à 10, la dilatation est complète.
C'est ça. Je lui ai dit, non, c'est pas possible que je ne peux pas être à 8. Elle m'a dit, mais si, vous allez accoucher. J'ai dit, non, c'est pas possible. Que j'ai fait une écho maintenant, il y a à peine 6 jours. Non, c'est pas prévu pour maintenant. Elle me dit, mais voilà, il y a des bébés comme ça qui décident de venir un peu plus tôt que prévu. Je lui ai demandé s'il n'y avait rien à faire. Elle m'a dit, non, il n'y a rien à faire. Vous êtes à 8 cm, là, ça va commencer.
Excusez-moi Karine, on va dire le bébé est né vivant. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment est-ce qu'il a été pris en charge ?
au fait, là, quand elle est née, je crois qu'ils ont eu à la réanimer un peu parce que je n'arrivais pas à pousser normalement. Mmh. Elle me disait que je criais, je ne poussais pas. Donc, peut-être que ça a dû jouer un peu sur la naissance de l'enfant. Donc, quand elle est née, ils ont eu à la réanimer un peu parce que j'ai quand même entendu son cri. Ils l'ont installée, on va dire, sous respirateur. Et moi, j'étais là. J'ai demandé à voir la petite. On m'a dit non, d'attendre qu'on allait me procurer les premiers soins. Après, dans l'ambulance, l'enfant a commencé à être en détresse respiratoire. Parce que, étant prématuré, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Ils ne nous ont pas dit tout de suite que l'enfant devait être sur couveuse. Dans le centre de santé où on était, il n'y avait pas de couveuse. Mm. Et ils ont remis le bébé à ma maman pour qu'elle aille vers un autre centre de santé.
Et ça s'est terminé comment ?
Il n'y a pas eu de couveuse disponible dans les CHR qu'ils ont eu à visiter et on s'est retrouvés en clinique.
Vous êtes retrouvés en clinique ? Là, vous étiez à Abidjan ?
Oui, toujours.
Ça veut dire que vous avez fait le tour de plusieurs établissements de santé et personne n'a pu prendre en charge le bébé ?
C'est ça. Voilà, on va dire que c'est là que les choses commencent à devenir un peu plus compliquées parce que en clinique, la journée elle coûte très cher, la prise en charge de l'enfant coûte très cher. Si vous n'avez pas d'assurance, là, vraiment, vous êtes parti pour, on va dire, mine de rien, vous pouvez partir pour des millions pour sauver la vie de votre bébé. Mm. Parce qu'en moyenne, la journée peut faire 100 000, 120 000 francs CFA. Mm. Et nous, on tournait autour de 80 000 francs CFA la journée. Mm. Et on va dire que quand vous ne pouvez pas faire plus de jours que prévu, il y a à certaines conditions qui vous le donnent avant de faire sortir l'enfant peut-être un peu plus tôt que prévu. Mmh. Et quand l'enfant a un bon poids, ils vont vous prodiguer certaines mesures à prendre à la maison quand vous serez avec l'enfant et tout. Et comme en Afrique ici, il y a certaines personnes qui, on va dire des matrones, qui ont des secrets en griffe pour maintenir, on va dire, un prématuré, on va dire, dans de bonnes conditions jusqu'à ce qu'il soit en état de sortie, si on doit dire. Mmh.
Ce qui s'est passé, c'est que le bébé est sorti trop tôt, c'est ça, Karine ? Le bébé est sorti trop tôt du centre de santé ?
C'est ça. Un peu trop tôt, on va dire. Il y en a qui sont sortis au même moment, mais pour qui ça s'est passé
différemment. Ça s'est passé différemment. Docteur Abdoulaye Diop, vous avez suivi ce récit de Karine. Comment est-ce que vous réagissez à ce témoignage ? On comprend un parcours extrêmement douloureux, hein, accouchement en urgence, l'importance de l'accès à la qualité des soins, l'équipement de la structure, l'hygiène. Et on voit dans ce cas-là l'issue dramatique quand toutes ces conditions ne sont pas réunies.
Oui, c'est quand même malheureux de perdre un enfant parce que les conditions matérielles n'étaient pas disponibles, n'étaient pas remplies. Les centres de santé, la plupart des centres de santé ne disposent pas d'une couveuse pour accueillir et aider à la prise en charge du nouveau-né. Dans les structures privées, ça coûte cher, 80 000 francs par jour, ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et devoir faire sortir ce bébé de la couveuse là parce qu'il y a un problème financier, c'est un double drame. Non seulement il y a ce drame d'accoucher trop tôt avec tous les risques médicaux que court l'enfant, et en plus le faire sortir avec le risque de mort, de perdre le bébé, ce qui est arrivé finalement, c'est quand même dommage. Et c'est un problème que nous rencontrons, nous, dans les pays en voie de développement.
Et il faut indiquer que le deuxième bébé de Karine est arrivé dans de bonnes conditions, même si elle était très, très angoissée par rapport à ce qui pouvait se passer. Là, elle a vraiment fait attention, un très grand suivi, pas moins de 10 échographies pour surveiller tout cela. Et le bébé est arrivé à terme. En tout cas, le message que voulait faire passer Karine, hein, que l'on a perdu là en ligne, c'était vraiment au sujet de la situation dans ces hôpitaux d'Abidjan qui manquaient de moyens. Elle en a fait directement les frais. Il faut justement favoriser l'accès aux soins pour toutes les familles, pour ces prématurés, augmenter le nombre de couveuses et puis aussi la façon dont les personnels informent les mamans, donnent des indications pour prendre en charge ces bébés. On remercie beaucoup Karine parce que c'était un témoignage très fort. On la remercie aussi parce qu'elle est la première programmatrice de l'émission. On va se retrouver pour d'autres questions. Et Karine a choisi de nous faire partager ce titre de Terry Moïse, Je serai là. On vous dit merci. On va se retrouver juste après, Docteur Diop, hein, avec les auditrices de Priorité Santé. Hey, I
je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours sois sûr, tes amis sincères. Pour toi, un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul.
Priorité santé sur RFI. Question de femme aujourd'hui, prévenir la prématurité. Nous sommes toujours avec le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue, obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest à Dakar. Et on part pour le Gabon, où on retrouve en ligne de Libreville, Manuela. Manuela, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 35 ans, vous êtes actuellement enceinte et vous avez un enfant. Il a presque un an et demi aujourd'hui, et c'est le poids à la naissance de ce premier bébé qui vous a inquiété. Expliquez-nous pourquoi, Manuela.
Le premier bébé, il est arrivé avec 2,2 kg, donc il était très petit, alors là, vraiment très petit. Donc ça m'a un peu inquiété. Je me suis dit qu'il fallait peut-être le mettre en couveuse. Mais lorsque j'ai posé la question au gynécologue traitant, il me disait que l'enfant se porte bien. C'est vrai qu'il a un petit poids, mais ce n'est pas un danger. Il n'a pas besoin d'aller en couveuse. On pourra rentrer à la maison 2 jours après et tout ira bien.
Donc le médecin vous a renseigné. Votre grossesse actuelle, elle se passe comment ?
Actuellement, cette grossesse, elle se passe normalement. Elle se passe bien. Tout va bien jusque-là.
Mais vous avez encore des inquiétudes par rapport au poids de ce bébé qui s'annonce ?
Bon, pour l'instant, j'ai quand même posé la question à la dernière visite. Pour l'instant, tout va bien. Et puis, bon, la dernière fois, le médecin, il me disait que le poids n'est pas forcément, on va dire, un problème, en fait. Le poids n'est pas forcément un problème. Il suffit de voir comment l'enfant se comporte, comment l'enfant réagit face à la température extérieure du ventre et tout, pour savoir s'il va bien. Donc, moi, dans ma tête, je pensais qu'il fallait absolument avoir un bébé, peut-être de 3 kilos, de, je sais pas, mais pas de 2 kilos, 200, parce que vraiment, il était très, très petit. À peine, on pouvait le tenir avec une seule main, donc j'étais un peu inquiète.
Vous étiez inquiète. D'ailleurs, j'imagine que c'est ce petit bébé qu'on entend gazouiller derrière vous. Aujourd'hui, il a bien grandi, ce bébé. Il a rattrapé la croissance ?
Il a rattrapé la croissance aussitôt. Chaque mois, il prenait 1 kilo. Chaque mois, il prenait 1 kilo jusqu'à un certain âge. Maintenant, là, il a 17 mois. Il a 11 kilos. Il se porte bien. C'est lui qui fait tout ce tapage. Tout va bien.
Ben, tout va bien. Docteur Abdoulaye Diop, comment expliquer que certains bébés naissent à terme avec un poids plutôt peu élevé ?
Oui, on peut. Enfin, tous les enfants ne naissent pas avec le même poids, heureusement d'ailleurs. Pour son cas, elle est née, son bébé est né à terme et avec un poids de 2,2 kg. Là, on ne parlera pas de prématurité, mais on parlera plutôt d'un hypotrophe, d'un enfant de petit poids de naissance. Ça arrive surtout lors des premières grossesses, c'est très fréquent d'ailleurs. Certaines pathologies telles que les préclampsies sont pourvoyeuses de retard de croissance et donc de petits bébés à la naissance. Mais ce sont des bébés en général qui quand même récupèrent rapidement, comme c'est le cas de Manuela.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un risque supplémentaire ?
Oui, de toute façon, plus le poids est petit, plus il y a une certaine fragilité, une certaine susceptibilité aux infections. On est plus à l'aise quand le bébé fait au moins 2,5 kg. Ça, c'est vraiment le minimum syndical acceptable pour un bébé. Si un bébé à terme fait 2,2 kg, ça veut dire manifestement qu'il y a eu à un moment un retard de croissance assez sévère.
On remercie beaucoup Manuela en tout cas pour son appel. Très bonne continuation. Témoignage sur Facebook. Là, c'est Joyce du Ghana. Elle a donné naissance à une petite fille en 2007. 32 semaines de grossesse, un poids de 2 kilos. La sage-femme avait constaté une ouverture du col après la perte des os. Donc l'accouchement a été déclenché. 2 semaines à la maternité, puis le retour à la maison. Joyce explique qu'elle était un petit peu perdue. Hein. La petite a fait une jaunisse, elle s'est déshydratée, elle a perdu du poids. Elle a été hospitalisée et aujourd'hui, tout va bien. Et ensuite, 3 autres bébés, toujours autour de 2 kilos. Docteur Abdoulaye Diop, Joyce pose donc cette question. Est-ce que le fait que ma première fille soit née prématurée peut expliquer que les autres soient nés de faible poids par la suite? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Ça arrive. Il y a des patientes qui font de petits bébés. On sait qu'il y a des patientes qui, de manière naturelle, sans pour autant qu'il y ait une pathologie sous-jacente, font de petits bébés. Comme il y en a évidemment qui font de gros bébés, sans pour autant qu'il y ait un diabète derrière parfois. Ça arrive que des patientes fassent de petits bébés. On n'est jamais à l'aise avec ces petits bébés. Son premier, c'était un accouchement prématuré 32 semaines, plus un petit bébé, avec tous les problèmes d'adaptation que ça a posé, quelques complications, nictère néonatale, qui heureusement a pu bien être gérée. Mais ça arrive, c'est plutôt constitutionnel, voire génétique.
On va tout de suite retourner au Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Pour vous donner la parole, Rudy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous aussi, Rudy, un premier bébé prématuré, 31 semaines d'aménorrhée, hein, tout début du 8e mois, 1,5 kg seulement à la naissance. Ce bébé a maintenant presque 1 an et demi. Comment se porte-t-il?
Oui, elle se porte très bien, merci. Et mais elle n'avait pas 1,5 kg, elle avait 1,150 kg.
1,150 kg, encore moins.
Oui.
Alors
oui,
c'est encore moins. C'est vraiment tout petit. Comment elle s'appelle cette petite fille?
Elle s'appelle Lien.
Lien. Alors pour sa surveillance médicale pour votre bébé, comment ça s'est passé une fois qu'elle est arrivée?
On a fait 6 semaines à l'hôpital en couveuse. Elle a fait 4 semaines en couveuse, 2 semaines d'observation hors couveuse pour voir un peu l'évolution. Elle a subi beaucoup de transfusions, elle a eu beaucoup de médicaments, c'était compliqué, c'était vraiment l'horreur. Et on nous a fait faire le pot à pot pendant un mois.
Le kangourou, c'est donc on met le bébé contre le corps pour bien le réchauffer, l'avoir contre soi.
Voilà, voilà. Et comme on était nombreux, il y avait beaucoup de mamans, on était dans la salle dans laquelle j'étais, on était une dizaine de mamans. Mmh. Qui avait des enfants prématurés. Mais la mienne a bien réagi au traitement, elle a bien évolué. Au début, c'était compliqué, j'avais un peu peur parce que c'était nouveau pour moi, je ne connaissais pas la néonatologie, et puis j'ai appris à vivre avec.
Vous avez appris à vivre avec, ça veut dire qu'avant cela, vous ne saviez pas les risques encourus, vous ne connaissiez pas les risques encourus par les bébés nés prématurés. Elle est arrivée en urgence ou l'accouchement a été déclenché?
Oui, j'ai fait une pré-éclampsie.
Pré-éclampsie. Mmh.
Donc pour éviter de perdre le bébé, l'hôpital m'a proposé de me retirer le bébé parce qu'elle perdait du poids. Donc à 7 semaines, le bébé avait 1,5 kg. Et dès qu'on a entamé le 8e mois, on a découvert que le bébé avait perdu du poids.
Donc l'accouchement a été déclenché. Vous étiez très inquiète? Vous aviez quelqu'un qui en parlait?
On avait un psy à l'hôpital qui nous expliquait un peu c'était quoi un enfant prématuré, c'était quoi un bébé. C'était pas un bébé, c'était un bébé comme les autres. Mmh.
Ça vous a aidé tout ça, ces explications?
Oui, oui. Vraiment, ça m'a bien aidé, ça m'a ôté certaines peurs. Parce que j'appréhendais un peu, parce que quand j'ai vu mon bébé, il ressemblait à rien, à 1 kg. Mmh. Vraiment, j'avais peur, j'ai cru que j'allais perdre mon bébé, j'avais peur quand l'hôpital m'appelait. J'étais inquiète et tout le temps me rassurait que ça va aller.
ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas la première à avoir un bébé prématuré. Et on m'a montré les autres mamans qui disaient la même chose.
Et c'est quelque chose que vous voulez faire passer justement aux autres auditrices, hein, ce message justement, plutôt qu'une question, c'est de rassurer et de dire que finalement on a autant d'amour pour ces bébés-là.
Oui, on a autant d'amour, c'est un bébé tout à fait normal. Ma petite fille grandit normalement, elle vit comme un bébé normal. Elle mange normalement, elle va à l'école même déjà, donc il n'y a pas à avoir peur d'avoir un bébé prématuré. C'est vraiment pas.
En tout cas, ce qu'on entend, Rudy, avec vous, c'est que les psychologues ont fait un très bon travail avec vous. Heureusement qu'ils étaient autour de vous, docteur Abdoulaye Diop. C'est vrai que c'est très important d'être bien entouré quand on a une jeune accouchée, surtout qu'avec un bébé, on va dire minuscule, hein, comme Rudy, on a besoin d'être épaulé, d'être soutenu.
Oui, c'est important l'accompagnement psychologique, en plus de l'accompagnement médical. Être devant la réalité de cet accouchement brutal, le risque de mort, de perte du bébé, parce qu'on sait que la mortalité quand même chez les prématurés est supérieure à la mortalité chez les enfants nés à terme. Et donc, c'est ce stress à tout moment qu'on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle, comme elle le dit, perdre son bébé, c'est très, très, très stressant. Heureusement, le personnel médical quand même est arrivé à gérer ça, à l'accompagner psychologiquement, l'accompagner médicalement, et heureusement pour elle les choses sont bien passées, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, mais heureusement elle a pu bénéficier de cet accompagnement.
En tout cas, on vous remercie beaucoup, hein, Rudy, pour votre témoignage. Excellente journée à Libreville. On part maintenant pour la République démocratique du Congo et c'est à Matadi qu'on vous retrouve. Marie, bonjour.
Bonjour.
Alors, une expérience douloureuse, hein, vous aussi, puisque vous avez perdu un enfant né prématuré peu après sa naissance. C'était il y a un peu plus de 3 ans. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Marie, nous raconter dans quelles circonstances cela s'est passé?
Voilà, j'avais bien passé ma grossesse, je n'avais pas de problème. Et j'ai commencé à avoir des petites contractions. Alors, à l'hôpital, le docteur m'a dit de me reposer, d'avoir un repos. Et les réponses étaient à l'hôpital, alors il me faisait des injections pour calmer la douleur. Mais après quelques jours, j'avais fait une rupture prématurée des membranes. Et je crois une semaine plus tard, on m'a dit que je devais accoucher parce que l'enfant ne pouvait plus résister parce qu'il n'y avait plus assez de liquide amniotique. Mmh. Alors on m'a proposé une césarienne et ensuite l'enfant a commencé à faire des fièvres. Bon, on a pris en charge l'enfant, mais ce n'était pas dans un service néonatal. Donc, c'était juste dans un centre hospitalier. Et lorsqu'on a fait un transfert vers les néonatologies, alors 2 jours plus tard, donc le 12e jour, l'enfant est décédé.
Alors, ce récit, hein, ce récit douloureux de Marie de Matadi. Docteur Abdoulaye Diop, une série de questions après ce témoignage. On remercie beaucoup Marie, hein, de nous avoir appelé de RDC. D'abord, elle a fait part de ses douleurs, des contractions, puis la rupture de la poche des os. Est-ce qu'il y a à ce moment-là des moyens de freiner pour retarder la naissance du bébé?
Oui, parfois il y a des moyens de retarder. Dès qu'on commence à avoir des petites contractions, il faudrait bloquer ces contractions, faire ce qu'on appelle dans notre jargon une tocolyse pour que ces contractions s'arrêtent. Et si on arrive à bloquer de manière efficace ces contractions, le processus d'accouchement prématuré qui est au stade de menace d'accouchement s'interrompt. Par contre, quand la poche des os est rompue, là on est pratiquement démuni. En général, dès que la poche des os est rompue, le liquide amniotique contient des produits qui vont eux-mêmes déclencher le travail et il est peu probable de pouvoir maintenir ou poursuivre la grossesse quand la poche des os est rompue. Donc, il faudrait veiller à ce que cette poche ne se rompe pas. Et la première cause de rupture de cette poche des os, c'est surtout les infections vaginales, non traitées, maltraitées ou méconnues. Donc, lorsque la femme enceinte a des pertes blanches, il faudrait qu'elle se rapproche de son médecin, vérifie rapidement la cause et l'origine de ces pertes blanches et les traiter. Parce que ces pertes blanches vont d'abord déclencher des douleurs. Et si on y prend garde, ces pertes blanches vont finir par rompre la poche des os. Et là, l'accouchement devient inéluctable. Malheureusement.
Et avec ce témoignage de Marie, hein, ça plaide encore une fois pour le renforcement de la prise en charge en matière de santé maternelle et néonatale. On le voit, il n'y avait pas les équipements et le bébé est né vivant et il n'a pas pu survivre.
Oui, ça pose le problème d'abord de la qualité des soins, la qualité des consultations prénatales. Ces consultations prénatales de bonne qualité permettent d'anticiper sur plein de complications qui peuvent survenir. Et si jamais il y a des complications, il faudrait qu'il y ait un plateau technique suffisant pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Et c'est là vraiment tout le problème.
Et docteur Diop, on dit aucune grossesse ne se ressemble, c'est une vérité. C'est pas parce que on a eu un premier bébé sans problème que pour la grossesse suivante, on peut se passer de ces consultations prénatales.
Oui, heureusement, chaque grossesse est unique, chaque accouchement est unique. Et c'est pas parce que vous avez eu un accouchement prématuré la première fois que la deuxième fois, ce sera la même chose. Même chose, c'est pas parce que vous avez eu un premier accouchement qui s'est passé normalement qu'obligatoirement les autres se passeront bien. Chaque grossesse est unique, chaque grossesse doit être suivie normalement avec un bon suivi prénatal, avec sa sage-femme, son gynécologue, anticiper sur les problèmes, les prendre en charge pour que l'enfant puisse avoir les meilleures conditions de naissance à terme pour éviter ces complications liées à la prématurité.
Et bien évidemment, on souhaite beaucoup de courage à Marie de la RDC. On va partir maintenant pour l'autre Congo.
RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
Pour un dernier témoignage, c'est celui de Michel, maman d'un bébé de 15 mois. Avant lui, une petite fille de 5 ans qui, elle, est née aussi avant terme à 32 semaines de grossesse, 1,8 kg. Michel, qui sur le répondeur de Priorité Santé, nous raconte ce parcours semé d'inquiétude, de surveillance médicale et aujourd'hui encore d'un certain nombre de doutes.
Bonjour, bonjour docteur. Moi, c'est Michel, je suis au Congo-Brazzaville, dans la ville économique Pointe-Noire. J'ai 33 ans et j'ai deux enfants. Ma première fille a 5 ans et le deuxième, c'est un garçon, il a 15 mois. La première est venue à 32 semaines avec 1,8 kg. Au sortir de là, nous sommes allés à la néonate. On a passé 2 semaines, elle avait la jaunisse. Après la néonate, nous sommes rentrés à la maison. J'ai passé encore 7 mois dans un centre de massage avec le kiné parce qu'elle avait un problème avec son cou, son dos et ses jambes. Ça me faisait de la peine parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et aussi, je dois signifier qu'elle avait une plagiocéphalie. Elle a été suivie par un pédiatre pendant 1 année. Du coup, je ne voulais plus avoir un deuxième enfant. Mais après, avec le regard de la société, la pression des gens, je tombe enceinte pour une deuxième fois. Et là, je découvre que j'avais un problème avec mon col qui était ouvert. J'étais obligée d'être cerclée. Heureusement, l'enfant est arrivé à terme avec 3,550 kg. Mais j'ai constaté aussi qu'il a les mêmes problèmes que sa sœur. Toujours le cou tordu, les jambes qui ne tenaient pas. J'étais obligée de repartir encore dans le centre pour le massage. Aujourd'hui, ça va. Seulement, je voudrais comprendre quelle est la raison qui fait que mes enfants naissent avec ces malformations-là. Pourquoi je suis obligée de repartir dans des centres de massage, de rééducation? Aussi, quelle est la cause des naissances prématurées? Parce que s'il faudrait racheter un troisième, ça veut dire que je rencontrerai le même souci, le même problème. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que c'est mon partenaire? Quels sont les examens qu'il faudrait faire? Si jamais, bien sûr, j'envisage d'avoir un troisième enfant. Ce qui n'est pas le cas, parce que c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de stress et de culpabilité aussi d'une part. Voilà, merci.
Alors Michel, qui a donc été éprouvé, très éprouvé, on l'entend, par ces deux grossesses, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, docteur Abdoulaye Diop, déjà sur la béance du col, expliquez précisément de quoi il s'agit aux auditrices.
La béance du col, c'est une ouverture du col, le col de l'utérus qui est censé être fermé chez une patiente qui n'est pas enceinte, et même fermé tout le long de la grossesse, et il n'est censé s'ouvrir qu'au moment du travail. Certaines patientes ont naturellement un col qui est ouvert, qui admet naturellement un doigt, naturellement deux doigts, et il y a un col qui est très court. Et donc, ces patientes qui ont des cols courts, avec la grossesse, avec le poids de l'œuf et de ses annexes, au fur et à mesure du temps, ce poids va appuyer sur le col et le col aura tendance à s'ouvrir de manière naturelle et elles ont tendance à faire des accouchements prématurés. Et ces accouchements prématurés surviennent de plus en plus précocement. Le premier vers 8 mois, le second vers 7 mois, le troisième vers 6 mois, ainsi de suite. On appelle ça une incompétence du col. Le traitement est très simple. Il suffit juste de poser le diagnostic d'incompétence cervicale ou de béance du col et on fait un cerclage comme elle a pu bénéficier. Un cerclage, c'est un fil entre guillemets que l'on met au niveau du col et on attache comme une ceinture pour fermer le col. Et on laisse ce fil sur place jusqu'à ce que les risques de prématurité soient dépassés. À partir de 36 semaines, on coupe le fil, on l'enlève et la patiente, elle peut accoucher sans problème.
C'est sécurisant.
C'est sécurisant, oui. Ça permet justement d'éviter ces accouchements prématurés.
Alors, comme les événements se répètent pour Michel, suite à ces deux risques d'accouchement prématuré, le deuxième non, puisqu'il y a eu le cerclage, les deux bébés qui sont arrivés avec des problèmes a priori sur le squelette, mais qui ont été résolus par des massages, par de la kinésithérapie, est-ce qu'il y a forcément un lien entre les conditions d'accouchement et ces problèmes de dos chez les bébés ?
Je pense qu'il y a probablement deux problèmes chez Marie, indépendamment de son problème de col, cette béance cervicale qui a pu être gérée par un cerclage. Le fait d'avoir eu deux enfants qui ont eu ces problèmes de dos et de plage céphalique, comme on en a parlé, il y a probablement un problème génétique qui peut être lié soit à une consanguinité avec son conjoint ou bien elle-même un problème génétique qui est là, parce que c'est craniosténose, c'est fermeture prématurée des os de l'enfant, alors qu'on sait que normalement il y a des sutures et les os de l'enfant de la tête ne sont pas censés se fermer. Si l'enfant naît avec une malformation au niveau des os et que ça se reproduit à la grossesse précédente, il est fort à parier qu'il y a probablement un problème génétique chez elle ou chez son mari, ou bien il y a un problème de consanguinité. Donc il faudrait peut-être qu'elle voit un généticien si possible, faire des cariotypes type, chez l'un comme chez l'autre, et voir quelle est la cause, parce qu'il y a quand même un grand risque qu'au troisième bébé, que les choses reviennent encore.
Voilà, ces conseils pour Michel. On la remercie beaucoup pour ce témoignage, et c'est aussi avec son choix musical que nous nous disons au revoir, docteur Abdoulaye Diop. Un grand merci à vous encore pour toutes ces informations, tous ces conseils pour nos auditrices. On remercie aussi l'équipe des studios en Mandinkan et Full Full Day de RFI à Dakar. Alors cette chanson choisie par Michel, qu'elle nous propose d'écouter maintenant, de Pointe Noire, c'est I Look To You, la voix, la magnifique voix de Whitney Houston. Merci beaucoup docteur Diop.
Je vous en prie Caroline.
Et à bientôt dans Priorité Santé.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Searching for that open door.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. À Paris, Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu et Jean-Philippe Thury. À Dakar, Alassane Birba et Cher Diop. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.